Le Grand Dialogue.
Sigafoba.
Odewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmoun.
Chienne Berry. Sigafoba. Le Grand Dialogue.
Inondation, comment faire face aux risques cette année au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Bakary Daou, Bakary Daou, directeur régional de la protection civile de Bamako, Amadou Diakité, prévisionniste à Mali Météo et Ahmed Sekou Diallo, président de la plateforme nationale sur le climat. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, et bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le risque d'inondation est élevé cette année au Mali selon Mali Météo. La population de Bamako et ses environs se souvient encore des inondations du jeudi 16 mai dernier. Plusieurs morts, des blessés et d'importants dégâts matériels avaient été enregistrés suite à cette catastrophe. On va écouter d'abord quelques Bamakois qui réagissent par rapport à cette inondation.
J'ai dit vraiment aux autorités de faire quelque chose pour avoir beaucoup de fossés pour que l'eau passe au bon endroit.
Chez nous ici, quand la pluie vient, bon, il y a beaucoup de autres choses que la pluie va avec savoir.
Les gens n'ont pas la même volonté de pouvoir assainir leur environnement.
Il y a des gens, lors des constructions, ils déposent les sables et les graviers au bord du goudron. Souvent, avec l'arrivée des pluies, ça peut provoquer des drainages, ces sables-là, dans le caniveau. Il y a des gens, ils prennent les poubelles, ils versent ça dans le caniveau. C'est ça qui bouge. Surtout quand il pleut, ils appellent ça promo.
Drôle de promo. Alors, lieutenant-colonel Bakary Daou, qu'est-ce qui provoque les inondations au Mali?
Merci bien, je vous remercie. J'ai remercié tous les auditeurs de Studio Tamani. Mm. Et c'est vrai, ce qui provoque les inondations d'une façon générale, et c'est lorsque, en principe, les cours d'eau sont débordés et qui vont en tout cas occuper les terrains nus aux environnants. Et c'est ça réellement la cause principale des inondations. Mais quand on fait référence à l'inondation du 16, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et parce que quand on prend l'inondation du 16 mai 2019, c'est que il y a des causes fondamentales que techniquement nous avons pouvoir quand même déceler. Et c'est vrai, en dehors du changement climatique, il y a un aspect qui n'est pas à ignorer. Et pour moi, qui n'est pas d'abord une cause irréelle, mais l'aspect à considérer. Et je dirais que les deux causes fondamentales sont que au niveau de Bamako ou du Mali, nous sommes en une période qu'on appelle la période sèche. Et pendant cette période sèche, donc on s'attendait pas à une pluie, et surtout à une pluie de grande amplitude, parce que c'était énorme, 138 mm. Alors que quand on prend le dernier événement grandiose en matière d'inondation, c'était en 2013, et que la forte pluie, c'était 78 mm, donc qui a causé tant de dégâts. Donc ça, c'était 78, et cette année, nous sommes à 138 mm. C'est pour vous dire tout simplement que l'effet de surprise a fait en sorte que l'inondation a causé ce dégât. Mm. Ça, c'est le premier aspect. Second aspect, tout simplement, je dirais, il y a des gens qui disent que les caniveaux sont bouchés. Non, c'est pas. D'une façon générale, c'est une cause d'inondation. Mais pour cette fois-ci, c'est dû tout simplement au fait que les citoyens, la population, est installée dans la ligne majeure des marigots. Et les lits sont très rétrécis. Il y a une quantité abondante d'eau et que il faut que on dit en bambara, jida temesrabla, parce que il y a des années que il n'y a pas en tout cas cette grandeur de pluviométrie et que d'abord la pluie est venue en force avec une quantité énorme et les caniveaux, ou du moins les marigots et les rivières sont rétrécis par les habitants. Et ces habitants sont installés d'une façon illégale ou anarchique. Et c'est ça, pour nous, la vraie raison du drame du 16 mai 2019.
D'accord. Ahmed Sekou Diallo, quel est votre constat par rapport à cette inondation?
Bon, je suis très d'accord avec l'explication que le responsable de la protection civile a donnée. Ce qu'il faut juste ajouter, c'est que il a dit certes la quantité d'eau qui est tombée, mais le temps aussi, a beaucoup joué, parce que c'est en quelques heures, deux heures, ou quand même un temps très réduit, que toute cette quantité s'est déversée sur la ville. Et là où je suis encore d'accord avec lui, c'est que les grands problèmes, là où on les a vus, c'est ceux qui ont occupé les lits des marigots. Donc, c'est normal que quand on est sur le lit du marigot et que le marigot se remplit, mais ça se déverse sur les maisons. Donc, pour nous, ce qu'on peut ajouter à ce qui a été dit, c'est parce qu'il y avait de l'incivisme, il y a eu de l'anarchie, il y a eu vraiment de l'impunité que tout ça là nous arrive, quoi.
D'accord. Alors, le lieutenant-colonel dit que c'est un effet de surprise et qu'on ne s'attendait pas à cela. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait éviter cette inondation?
On peut toujours l'éviter. L'éviter comment? En sensibilisant les communautés, en donnant toutes les informations utiles à temps, mais aussi en prenant toutes les dispositions aussi avant. Que les responsabilités soient situées et que chacun joue son rôle. C'est une chaîne, chacun doit jouer son rôle. Parce que ça pouvait être évité si nos maires n'avaient pas eu l'audace de vendre des terrains qui se situent sur le lit des marigots. Ça pouvait être évité si nos autorités avaient sanctionné ces maires-là. Ça pouvait être évité si les chefs de quartier, les chefs de village étaient là pour venir dire à ceux qui sont là, là où vous n'êtes pas là. Il faut qu'on vous déguerpisse et trouver d'autres alternatives. C'est vrai qu'il y a la précarité, c'est vrai que le problème de logement se pose avec acuité parce qu'il y a une forte démographie, mais quand même, pour risquer sa vie pour ce genre de situation, je crois qu'on peut trouver meilleur.
D'accord. Effet de surprise, est-ce que ça ne figurait pas dans les rapports des prévisionnistes?
Oui, effet de surprise, c'est vrai. J'ai dit, c'est l'effet de surprise, c'est en tout cas, c'est la séquelle, la séquelle de l'inondation. Sinon, on peut éviter l'inondation, c'est très clair, mais on ne peut pas éradiquer l'inondation. On peut l'éviter comment? Quand on prend par rapport... Moi, je vais répondre toujours au dernier cas du 16 mai 2019. C'est que quand vous allez constater, quand vous êtes sur le terrain, à partir du marigot qui traverse Nyamakoro, qui traverse Kalabankoro, Nyamakoro, Kalabankoura, qui vient jusqu'au niveau du fleuve, et pareil. Et pour le marigot qui quitte Nyamana, qui traverse Yirimadjo, qui vient jusqu'au niveau de Misabougou, et quand on considère ces rivières, on a constaté que, c'est vrai, le monsieur dit que la responsabilité, situe la responsabilité au maire, c'est pas le seul maire, c'est pas seul le maire qui gère le domaine foncier. Et que nous avons constaté que c'est vrai qu'il y a des malsains par rapport souvent à l'attitude de certains maires, mais je ne résume pas le problème à ceci, ça seulement. Parce que il y a une gamme importante d'individus qui sont impliqués dans la gestion du foncier. Il y a l'environnement, il y a l'assainissement, il y a l'urbanisme, il y a même la protection civile, il y a plein de services techniques qui rentrent en ligne de compte dans la gestion du foncier. Maintenant, pour y revenir...
Est-ce qu'il y a une collaboration entre tous ces acteurs?
Bien sûr, il y a une collaboration. Mais pour y revenir d'abord à votre question, je vous dis que si on pouvait éviter, on pouvait éviter comment? Parce que quand vous allez constater qu'au niveau des différents marigots que je viens de citer, vous allez trouver que ces maisons ont été tracées. Il y a des croix. Et la croix veut dire que et là où vous avez habité, ce n'est pas normal, vous devez quitter. Et si vous ne quittez pas, et qu'il y a des croix, il y a plus de 4 ans, si vous ne quittez pas, et que les services concernés qui ont mis la croix devaient avoir le courage d'appliquer la loi dans toute sa largeur, dans toute sa longueur. Mais cela n'a pas été. C'est pourquoi je dis seulement, c'est le ressort seulement des maires, non.
Mais qu'est-ce qui les empêche d'avoir ce courage-là?
Voilà, c'est ce qui les empêche. Voilà, la loi est une chose et l'application en est autre. Les maires sont les magistrats, sont les premiers responsables au niveau de la communauté. Mais ces maires-là sont élus par la population. Et quand tu prends une décision légale de guérir un nombre important d'individus installés, mais ils ne vont pas voter pour toi. Et c'est l'aspect qui empêche, pour moi, ça c'est une conviction personnelle, et qui freine un peu les maires d'avoir le courage d'aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et nous, les services techniques, on ne devait pas être là parce qu'on ne sont pas élus. Nous devons avoir le courage de pouvoir quand même protéger les concitoyens. Lorsque la loi nous demande qu'ils ne s'installent pas, on les déguerpit. Une fois que, si, partout là où il y avait les croix, partout où il y avait les maisons tracées, si ces maisons-là étaient déguerpies et étaient annulées, l'eau n'allait pas avoir... Elle allait avoir l'espace nécessaire pour traverser. Bien vrai qu'il y avait une coulée abondante, une coulée forte. Il devait quand même avoir l'espace nécessaire pour traverser avant d'aller s'éparpiller vers les maisons. C'est un constat. Partout où il y a les grands dégâts, partout où il y a eu des cas de décès, c'est dans le lit major du fleuve.
D'accord. Mais toujours concernant la responsabilité des maires, certains l'évoquent parce qu'ils pensent que les espaces qui sont occupés par ces populations-là ont été vendus par ces mêmes maires. Alors, est-ce que ces maires-là n'étaient pas conscients du danger avant de vendre ces terrains?
Ben, nous serons en 2013, lorsque nous avons une enquête approfondie par rapport à la catastrophe de 2013, on a trouvé qu'il y a pas mal d'individus qui se sont installés sans document administratif. C'est vrai, il y avait des documents de certains maires, de certains conseillers. Mais par contre, il y avait un nombre important d'individus qui étaient installés sans documents. Parce que je trouve l'espace, je vais tout simplement me servir pour construire et pour m'installer. Et voilà, donc je cherche des documents à me conformer. Et vraiment, je dirais que la responsabilité est grandement partagée par les services techniques. C'est que chacun n'a qu'à jouer son rôle. C'est vrai, les maires, c'est presque le coordinateur au niveau communauté. Mais les maires ont des services techniques qui travaillent pour eux. Quand on est au niveau de numérique, il y a un service domanial, il y a un service d'assainissement, il y a un service d'urbanisme. Mais ces services techniques-là, il faut qu'ils parviennent à travailler. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas. C'est le travail de l'administration. C'est pourquoi, dans mon rapport, j'ai dit que la responsabilité est située. Et d'une part, en tout cas, l'État responsable à travers ses services techniques, et d'autre part, et la grande part, ça, c'est la collectivité. Et en troisième lieu, les populations. Parce que les populations sachent que, je sais que là où je m'implante, je n'ai pas les moyens de m'implanter. Et j'aime les moyens précaires que j'ai, l'économie précaire que j'ai. Je colle ça et pour pouvoir construire. Voilà. Et c'est parce que normalement, il n'y a pas de grande pluie. Et voilà, ça passe le jour où il y aura grande pluie, comme ça a été le cas de l'autre jour, mais ça va tout ravager. Donc nous sommes tous fautifs, à quelque niveau. Il va falloir qu'on puisse quand même en synergie d'action pour voir réellement qui doit faire quoi. Parce que quand on prend pas pour défendre les maires, quand on prend les maires, par exemple, il y a une responsabilité. Les maires ont une certaine responsabilité. Mais est-ce que dans le système de transfert des compétences ont été au niveau des maires. Ils ont la compétence de pouvoir administratif. Est-ce qu'ils ont des compétences économiques? Est-ce qu'ils ont des compétences en matière de ressources financières? Et si on dit que, par exemple, aucun marigot à Bamako, si ce n'est pas le Diafarnako, aucun marigot n'a été aménagé. Et Diafarnako, depuis 2013, on ne sent pas ce problème d'inondation à ce niveau. Parce que ces trucs naturels-là ne sont pas été aménagés et ça fait des coûts. Est-ce que les mairies ont des moyens pour faire face à ces coûts? Voilà. Donc, je ne maîtrise pas très bien ce domaine. Voilà. Et ma connaissance superficielle par rapport à tout ce qui est comme acteur pour pouvoir gérer cette situation.
D'accord. Tout le monde est fautif. Alors, qui peut trouver une solution à cela, à M. Koudjian?
Moi, je dirais que c'est à l'État d'abord de trouver une solution. Il faut un plan d'urbanisation vraiment de la ville et que ce plan-là soit appliqué. Monsieur Dao a dit déjà, par exemple, l'aménagement de Marigot qui a été fait et le problème est résolu. Si des initiatives comme ça ont été démultipliées, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas connu ce genre de problème. Mais moi, je crois que, comme je le dis toujours, la première responsabilité vient à l'État. Il faut que l'autorité de l'État soit assurée et à tous les niveaux. Cette autorité-là a été faite, tous les niveaux allaient jouer leur rôle pleinement. Mais si y a l'impunité, on va toujours laisser faire. Donc, et la conscientisation, je crois, on a un grand effort à faire là-dedans. Conscientisation pour que les populations ne s'exposent pas, mais conscientisation aussi pour que, par rapport à ce genre de risque de catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir. Parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Peut-être que si les populations étaient assez sensibilisées, assez formées, peut-être qu'on aurait pu éviter des morts. On voit sur les réseaux sociaux des gens en train de secourir, c'est bien, mais le premier rôle est la protection civile. Est-ce que les gens ont eu le réflexe automatiquement que ça, on est dans un problème, on appelle la protection civile. Est-ce qu'on avait les numéros verts à disposition? C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Parce que vous voyez le jeune, par exemple, qui doit être décoré. Il était sur le toit en train de se débrouiller avec sa main pour enlever des tôles, des tuiles et autres. Là. Tout ce temps-là, si quelqu'un avait téléphoné, les aides allaient venir à temps et la réaction serait automatique. On aurait pu sauver des vies. Mais les gens ont souvent le réflexe de dire que, attends, on fait ceci, mais on ne prend jamais la responsabilité de dire, c'est pas mon rôle, il y a d'autres qui sont plus spécialisés que moi, on les appelle. Donc ça aussi, c'est important.
D'accord. Responsabilité de l'État, on va donc écouter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est rendu sur les lieux le week-end dernier.
Il est temps que le civisme reprenne ses droits. Il est grand temps que la discipline républicaine revienne. Cela peut produire, cela peut sauver des vies. Tous ces enfants qui sont morts, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont morts, il y a une grande part de responsabilité humaine. Nous sommes tous coupables. Nous, d'avoir dit, mais de n'avoir pas sanctionné. Mais nous ne nous contenterons plus de dire. Nous rappellerons encore aux édiles municipaux leur devoir. Il faut que l'on pense à la vie, à sauver la vie des gens dans ce pays. De plus en plus, de mieux en mieux. Nous devons, dès maintenant, prendre des mesures idoines de prévention, d'anticipation, pour protéger les vies des hommes et des femmes, et même celles des bêtes, et notre environnement. Nos biens, des vies consacrées à réunir un minimum, ont été saccagées. En deux vagues, les gens ont perdu tous leurs biens, sont totalement démunis. Tout geste qu'on peut faire est dérisoire. C'est juste qu'on souhaite un peu penser légèrement les plaies. Mais l'effort vigoureux devra venir par des décisions vigoureuses du gouvernement, en matière urbanistique, en matière environnementale. Je pars d'ici très émission, certainement, mais plus déterminé que jamais, à engager l'État à assumer ses responsabilités, à engager les édiles municipaux à être de la partie, à ne plus penser que tout doit revenir à l'État. Quand les lieux où ils ont été élus pour gérer les cités, ils gèrent les cités au mieux des intérêts des populations, en les préservant, en pensant à elles, ces populations-là, à leur vie, et non pas à l'argent.
Alors, Ahmed Sékou Diallo, est-ce que cette déclaration du président de la République vous rassure?
Ça allait beaucoup plus me rassurer si c'est suivi d'actes. On est là, on observe. On sera vigilant, acteur de la société civile. On ne va plus attendre que chaque fois que ça arrive. On va jouer notre rôle de veille, on va jouer notre rôle d'alerte pour que vraiment, et de suivi même, de la mise en œuvre de, parce que c'est des directives qu'il a données, c'est des ordres qu'il a données. On va voir les différents ministères concernés, est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle et servir vraiment d'alerte et de veille pour que ces choses-là n'arrivent pas. Mais j'allais dire aussi au président, c'est vrai ce qu'il a dit, mais il faudrait aussi que les moyens soient mis à disposition, parce que si on voit certains départements, c'est vrai qu'on est en crise multiforme. La priorité actuellement, le Mali est en guerre, c'est la sécurité, c'est la défense. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'autres priorités, il y a l'éducation, il y a la santé, mais il faut aussi penser à notre cadre de vie. Si des départements comme le ministère de l'Environnement n'ont pas les moyens de leur politique, c'est difficile, ils vont continuer à élaborer des politiques qui ne seront pas élaborées. Si le ministère de l'Urbanisme n'a pas les moyens, ce sera pareil. Donc il faudrait qu'on revoie l'équilibrage budgétaire pour que les ressources soient assez bien redistribuées pour que chacun puisse jouer son rôle.
Vous dites si c'est suivi d'actes, parce que ce n'est pas la première fois que le président annonce des mesures vigoureuses pour faire face à la situation, n'est-ce pas?
Oui, mais lui-même, il l'a dit. Il a dit que nous avons parlé. Cette fois-ci, nous devons sanctionner. Donc nous attendons ces sanctions-là, parce qu'il ne faut pas vraiment que l'impunité continue. Il ne faut pas que l'incivisme continue. L'autorité de l'État, je le répète, c'est pédagogique. Il faut que ça s'assume, quoi, vraiment. Et ça va aussi dans les axes même de les actes de gestion même aussi de nos ressources, parce que avec toutes ces crises, avec tous ces problèmes que nous vivons, nous voyons que l'argent est dilapidé, nous voyons qu'il y a le vol, il y a la corruption. Donc tout ça là peut jouer sur ces problèmes là parce que si on fait une très bonne lutte contre la corruption, l'argent qui est récupéré peut être redistribué pour des œuvres utiles. Mais si tout ce qu'on sort, chacun cherche à y avoir son intérêt, c'est l'impunité, c'est tout. Donc c'est plusieurs facteurs qui jouent vraiment à ce genre de problème, quoi. C'est pourquoi je dis que l'autorité de l'État doit vraiment être là, quoi.
D'accord. Lieutenant-colonel Bakary Diaw, est-ce que ces annonces du président de la République vont être suivies d'actes concrets, selon vous?
Oui, mais c'est tout à fait normal, parce que le président de la République est très clair. Il a donné sa ligne de conduite. C'est nous, les techniciens de l'État, qui devaient s'en servir pour quand même exploiter chacun dans son domaine. Le président ne peut pas dire dans chaque domaine, il faut faire ça. Il a été très clair. Donc, lorsqu'il y a des dispositions à prendre, les techniciens des services de l'État, et donc quand même faire en sorte que ça prime. Ça, c'est déjà, ça marche déjà. Le samedi, le président de la République a fait cette déclaration. Et déjà, le lundi, le ministre de l'Environnement a reçu les maires de Bamako. Et la mairie du district a fait un conseil extraordinaire. Et voilà, donc je pense que la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes au niveau de la direction générale s'est réunie le jour, et que très prochainement, le jeudi encore, doivent se réunir. C'est pour dire que déjà que...
Mais qu'est-ce qui ressort de toutes ces rencontres?
Ce qui ressort, c'est chacun dans son domaine. Elle doit de pouvoir quand même faire ce qu'il doit faire avant que le président de la République a donné. Il a lancé la perche, et c'est à nous de prendre et saisir et gérer le problème pour que, en tout cas, ce drame ne puisse pas se répéter encore à Bamako ou au Mali d'une façon générale. Raison pour laquelle dans chaque domaine, on doit se saisir de ce message pour voir, parce que chacun trouve sa partition là-dedans, c'est très clair. Si moi je suis urbaniste, moi je suis environnemental, si moi je suis sécurité, moi je suis collectivité, chacun trouve sa part là-dedans, c'est très clair.
Chacun
connaît son rôle.
Pourquoi il ne le joue pas?
Chacun connaît son rôle. Bon, peut-être que si vous voyez, il y a beaucoup de joueurs de musique, et que le son ne s'entend pas bien, c'est vrai que tout le monde ne joue pas sa partition. Sinon, chacun doit savoir. Chacun doit savoir que je dois faire ces notes-là pour que la musique puisse donner son. On le sait.
Le match n'est pas fini, l'arbitre ne siffle pas.
Voilà, donc vraiment, ce qui veut dire que tout simplement, l'État au-dessus de tout, pas seulement qu'on soit un citoyen, qu'on soit un bon citoyen. Lorsqu'on est un bon citoyen, ça me donne la culture de faire, de mieux faire, et dans son domaine.
Mais le président de la République a reconnu qu'il n'y a pas eu de sanctions. Il a annoncé des mesures vigoureuses. Alors, est-ce que ces rencontres-là ne devaient pas servir également de sanctions pour donner l'exemple?
Bon, pour sanctions, il peut y avoir des sanctions dans tout le cas que le citoyen lambda ne sera pas perçu par le citoyen lambda. Il ne s'agit pas de crier, d'aller prendre le micro pour sanctionner quelqu'un. Il s'agit d'agir et chacun dans son domaine. Et si quelqu'un doit être, sanctionné dans son domaine, ça ne servira à rien de réunir toute une nation ou tout un média pour annoncer ça. Mais c'est pour vous dire que si c'est des sanctions, les maisons ont été. Il y a eu des croix. Et il s'agit tout simplement d'aller démolir, d'aller déguerpir les gens. C'est ça, ce genre de sanctions. On dit vous ne devez pas être installé là, vous quittez. Obligatoirement. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est pour dire que si tout. Parce que nous sommes en. Il y a le sentiment, il y a eu des cas, il y a eu des décès, donc on ne peut pas vivement réagir ce qu'il faut. Mais en réalité, il faut que. Il faut en tout cas aller, il faut utiliser. Il y a des lois. Le Mali a tellement de lois par rapport à la gestion de cette situation qu'on applique les textes. Si on applique les textes, et dans toute leur rigueur, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Les sanctions seront dans l'application de ces textes. Quand il s'agit de démolir, il faut les démolir.
D'accord, démolir. Mais quand il s'agit de curer,
il y a des actes,
par exemple, le curage des
caniveaux. Il y a des gens qui disent que non, nous sommes installés, nous sommes des documents et que nous sommes sur un plan. Mais c'est un texte qui a donné un plan. S'il faut annuler pour préserver la vie des individus, même s'il y a des actes, qu'on annule les actes. Qu'on dégarpe les personnes qui sont en train de se prévaloir de ces documents administratifs et pour mettre en cause leur vie et la vie des autres. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est ça qu'on va parler de sanctions. Il s'agit tout simplement de.
Mais concernant les autres mesures, par exemple le curage des caniveaux, on voit rarement au Mali, à Bamako, même le curage des caniveaux se faire. Pourquoi?
Oui, bon, le curage, c'est que au début de mes propos, j'ai dit que c'est une question de finances. Hein. Il n'y a
pas d'argent.
Pour l'environnement, bon, moi, je ne suis pas dans le diable du ministère de l'économie. Mais tout ce que moi, j'avais dit tout simplement, et ça a tout le temps été buté à un problème de budget. Et s'il faut curer, par exemple, le ministre bon, je ne veux pas m'attarder trop de rentrer dans le domaine des particuliers, ce qui est sûr, et il n'y a pas de budget conséquent pour pouvoir quand même faire face d'abord au curage qu'il faut et ensuite aménager les marigots, les rivières. Énorme. Bamako est traversé par plusieurs marigots et plusieurs fleuves. Donc il va falloir que, en toute réalité, qu'on fasse face à l'essentiel. Le Mali, ça c'est une conviction personnelle, nous n'avons pas le problème de canalisation, vraiment, nous ne sommes pas mieux pour ça, parce que notre état de civisme ne nous permet pas de maintenir. Je pense qu'il faut aller vers les collecteurs, il faut avoir les égouts, les systèmes d'égouts, et c'est ce qui est approprié pour le Mali. Parce que quand il y a des systèmes d'égouts, quand il y a même des collecteurs, quand on prend par exemple le Sogonougo, qui est traversé par. Auparavant, en 2004-2005, Sogonougo était tellement inondable. Mais avec le collecteur de Sogonougo, on ne voit plus jamais, on n'entend plus. On n'entend plus. C'est pour vous dire que ces aménagements existent. Les petits canaux qui existent, notre éthique ne nous permet pas de l'entretenir. Si on ne peut pas l'entretenir, il faut aller pour un système d'égout, afin de pouvoir quand même éviter l'entretien du système d'égout est plus facile que l'entretien des canalisations. Comme l'a dit, quand il y a les tas de sable, de trucs pour la construction au bord du fleuve, lorsque la pluie l'amène pour aller boucher les bonnes dames.
Il y a l'environnementaliste Adamou qui pense que le système de canalisation au Mali n'est pas adapté pour pouvoir éviter les inondations. On va écouter son intervention.
Le problème ne se situe pas forcément au niveau de la forte pluie. Le problème se situe surtout au niveau des systèmes d'évacuation de ces pluies-là. Plus avant qu'une saison s'annonce, normalement, il doit y avoir des travaux. Les autorités doivent mener des travaux pour pouvoir accueillir cette pluie-là et l'évacuer. Donc, je crois que le système d'évacuation que nous avons dans la ville n'est pas adapté pour pouvoir empêcher, n'est-ce pas, ces différentes inondations. Et en plus de cela, nous remarquons à Bamako et aux alentours de la ville des constructions anarchiques. Certaines personnes personnes construisent sur les voies d'évacuation des eaux, certaines dans les bas-fonds. Donc tous ces éléments-là font que l'eau ne peut pas facilement s'évacuer. Nous savons que quand une ville grandit, il y a des planifications qui sont faites pour pouvoir préparer ces différents phénomènes-là. C'est ce qui n'est pas fait.
Alors, on parle de moyens financiers. Est-ce un problème de manque de moyens qu'on a ou est-ce un problème de mauvaise gestion?
Bon, moi, je dirais que c'est les deux. Manque de moyens, c'est réel parce que les moyens sont vraiment insuffisants. Mais en s'organisant et en ayant de bons plans, on peut toujours trouver des partenaires qui financent ces plans-là. Y a la mauvaise gestion qui est là, ça on le dit très haut parce que on voit le comportement de tout un chacun et on sait que y a dans tous les secteurs la mauvaise gestion, il y a la gabegie, il y a la lutte contre, il y a la corruption. Donc ça amène vraiment un problème de gouvernance. Mais je dirais que sans moyens, souvent on peut résoudre certains problèmes. Au niveau du quartier, si le quartier est bien organisé, si la citoyenneté est là, les groupes peuvent se regrouper. D'abord, la consigne peut être que chacun balaie correctement sa maison, entretient sa maison. Et des travaux collectifs se font chaque week-end ensemble. Si dans chaque quartier, dans chaque zone, ces mesures-là sont entreprises, on peut arriver à résoudre beaucoup de choses. Parce qu'un groupe de jeunes qui s'organise dans son quartier pour dire qu'ils veulent curer les caniveaux qui sont dans les quartiers, ils peuvent le faire. Qu'ils disent qu'ils veulent assainir leur milieu, ils peuvent le faire. Mais ces genres d'actes-là sont en train de disparaître. On ne les voit plus. Il faudrait qu'on conscientise, qu'on organise les groupes de quartier, qu'on organise les populations. Les femmes faisaient énormément de choses dans ce sens-là. Il faudrait vraiment qu'on revienne à nos valeurs, quoi. On a beaucoup de valeurs. Il faut qu'on se ressource et qu'on se donne la main, qu'on se dise qu'il ne faut pas attendre l'État. Ça, c'est notre environnement, c'est notre cadre de vie. Gérons ça. Si l'État apporte quelque chose, c'est un plus. Sinon, nous-mêmes, on peut faire beaucoup de choses.
D'accord. Parlons du bilan. Il y a eu plusieurs morts, des blessés, des dégâts matériels importants et même des poissons qu'on voit qui sont morts. Est-ce que vous pouvez revenir sur le bilan?
Effectivement, c'était dramatique. Il y a exactement ce que nous avons pu recenser avec... Et les coordonnées avec toute la situation exacte, avec 15 cas de décès. 15 cas de décès, 16e cas qui n'ont pas trouvé avec exactitude toutes les informations nécessaires. C'est pourquoi on s'assigne souvent des parts de 16. Donc il y a 15 cas de décès, effectivement, comme vous avez bien dit, il y a beaucoup de poissons qui sont morts. Et ensuite, il y a beaucoup de véhicules qui ont été emportés par le courant d'eau. Nous avions au moins une quinzaine de véhicules emportés par le courant d'eau, des motos, des vivres, des habits. Vraiment, ça a été costaud et que le bilan est vraiment amer. Donc, voilà.
À ce stade, est-ce qu'on connaît les raisons de la mort de ces poissons-là?
Je pense que le ministère en charge de l'environnement est à pied d'œuvre pour analyser ces poissons afin de pouvoir quand même dire avec exactitude la cause de la mort de ces poissons. Et pour le moment, ils n'ont pas fini avec les examens pour déterminer avec exactitude la mort de ces poissons.
D'accord. Alors, après les risques d'inondation, le problème auquel on est confronté au Mali, c'est le secours aussi. Alors, qu'est-ce qui est fait pour les victimes?
Les victimes sont recensées, les victimes sans abri, les victimes qui ont tout perdu et qui n'ont pas chez eux. Voilà les catégories de victimes qui ont été recensées au niveau des différents quartiers, au niveau des différentes communes. Nous avons dans l'immédiat les denrées alimentaires, parce qu'il faut trouver d'abord à installer celui qui est dépourvu de tout bien et qui ne sait pas là où aller. Et ensuite, il faut lui donner à manger, et il faut lui soigner. Et voilà étaient les actions prioritaires des services qui étaient la combinaison des efforts de la protection civile, du développement social, ainsi que de la santé et les communautés, c'est-à-dire les mairies. Donc nous avons pris des actions, nous avons recensé les sinistrés, et cas par cas, les sinistrés, d'autres qui ont perdu des biens, mais qui sont chez eux. Il y a certains qui ont perdu tout, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas où acheter, ils n'ont pas où coucher. Donc nous avons réalisé au moins des sites d'hébergement. Pour Bamako, on a pris, parce que les écoles devaient reprendre hier. Donc il était malsain de pouvoir quand même recaser les gens dans les écoles. Ça allait créer d'autres problèmes lorsque nous sommes en retard dans nos programmes scolaires. Donc nous avons souhaité prendre un centre approprié qui est le centre Mablé, qui est à Sougou. Ce centre-là, c'est un centre d'accueil. Et on a invité à tous les sinistrés qui ont des besoins de couchage et d'alimentation pour qu'ils puissent aller à la base. Malheureusement, c'est bien cadré, il y a un centre de secours à côté, il y a un commissariat à côté, un centre de santé à côté, donc c'est l'idéal pour la prise en charge de ces sinistrés. Mais nous avons un petit souci par rapport à tous les sinistrés, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas quitter leur quartier pour Sougounougou. Quand on prend les sinistrés de Bakodjikorani, les sinistrés de Kalabankoura, Niamakoro, donc les gens, tout le monde ne veut pas quitter pour venir sinon. Par contre, il y a des familles, des voisins qui ont hébergé leurs voisins sinistrés. Quand on prend le cas de Niamakoro, il y a un monsieur qui est en charge de 8 familles chez lui, parce qu'il a des concessions électriques. Voilà, ça ne finit pas avec la bonne humeur du Malien. Donc nous sommes à ce niveau. L'État a pris en charge déjà un mois de ration alimentaire, et que les soins, les premiers soins, les traitements ont été apportés lorsque les besoins se sont sentis. Actuellement là où nous sommes, et ça continue. Nous continuons à pouvoir recenser les victimes, parce que à chaud, on ne peut pas avoir toutes les victimes ou tous les sinistrés sur place. Nos services sont à pied d'œuvre pour pouvoir quand même, avec exactitude, trouver qui sont réellement sinistrés pour bénéficier non seulement les appuis de l'État, parce que l'État a appuyé immédiatement. Lorsque le Premier ministre a fait un déplacement, a fait un appui costaud par rapport aux besoins alimentaires. Et lorsque le président a fait son déplacement, a fait un geste important à l'endroit des sinistrés. Et voilà, maintenant, pour que ça puisse aller à bon escient, il faut avec exactitude le nombre. On était à 368 ménages sinistrés. Donc, dans ces 368, nous sommes aujourd'hui à plus de 600 sinistrés. Maintenant, il faut aller avec exactitude. Est-ce que réellement c'est des sinistrés? Et parmi ces sinistrés, dans quelles familles, quels sont les nombres de familles, d'individus sinistrés parmi ces? Voilà, nous sommes sur cette phase. D'accord. Et c'est très minutieux, parce qu'il y a nos partenaires du Mali veulent nous aider aussi par rapport à soutenir la souffrance de nos concitoyens, mais il faut trouver avec exactitude ces statistiques pour qu'ils puissent nous aider. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour cela.
Et c'est dans ce contexte que l'État compte encore prolonger l'année scolaire pour rattraper le temps perdu par rapport au grève. Alors, les sinistrés pendant l'hivernage, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir être abrités? Bon, puisque généralement, c'est les écoles qui les accueillent.
Les écoles. Bon, on peut vraiment lancer un appel à la solidarité. Le peuple est vraiment humain. On se partage tout. Donc, on va continuer à lancer des appels pour que ceux qui ont les moyens, qu'ils puissent contribuer, accompagner l'État dans cette dure épreuve. Ceux qui ont des matériels, tout ce qui est possible, de pouvoir le donner. Mais comme il l'a dit aussi, ceux qui peuvent héberger, qui ont des sites qui ne sont pas occupés, qu'ils puissent le faire. Bon, nous, on a suivi un peu l'événement, parce qu'on avait aussi pratiquement tout le monde est touché. Moi, personnellement, notre gardien était victime de ça. Mais quand on l'a venu, quand on est venu, toute sa famille, on l'a amené au niveau du bureau. Il loge pratiquement dans les bureaux parce qu'on a suivi. C'était très dur, quoi. On arrivait quand vous étiez en train d'amener les corps. Donc, on a vu que c'est vraiment très dur, quoi. Nous sommes vraiment solidaires à tout ce que l'État est en train de faire.
D'accord. Et il semblerait que les risques d'inondation soient élevés cette année.
Oui, avant de répondre à cette question, pour compléter, Monsieur Diallo, c'est pour dire que le centre de Mabilé, c'est un centre approprié. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'école, c'est pas une école, c'est une ancienne école, et que c'est R+3, qu'il y a beaucoup de sinistrés peuvent. Ça peut contenir tous les sinistrés de cet événement. Mais seulement que les gens trouvent le courage de quitter chez eux, de venir le temps tout simplement qu'ils soient équilibrés avant de pouvoir. Parce que la plupart de ces individus étaient en location. En location. Donc, le temps de se stabiliser avant d'aller chercher des maisons en bail, je profite de votre micro pour dire que ceux qui sont réticents de venir au centre Mabilé afin qu'ils soient quand même pris dans les conditions et qu'ils soient bien équilibrés avant de trouver chez soi. Donc, voilà. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que nous sommes dans une phase, comme on l'a dit, un aspect important qui est le changement climatique. Et ça s'annonce dur déjà. Et que ça nous permet, mais même si ce n'est pas le cas, ça nous permet de dire qu'il y aura des inondations. Et nous avons intérêt à prendre des dispositions, des mesures préventives, et pour éviter, en tout cas, les conséquences néfastes de ces inondations. Je dis que ça ne peut pas éradiquer, mais on peut quand même empêcher ou minimiser les conséquences de ces inondations sur nous, les individus, nos animaux, nos biens, ainsi surtout que l'environnement. Et donc, sur cela, ça s'annonce très vrai qu'il y aura des inondations seulement. Chacun de nous doit quand même se mettre à l'œuvre pour éviter, pour en tout cas curer nos caniveaux le peu qu'on peut. Pour curer nos caniveaux, on ne doit pas laisser tout à l'État, on ne doit pas tout laisser au maire. Et lorsque je suis desservi par des caniveaux, je dois quand même être en sorte de pouvoir quand même. Chaque jour, on entretient nos maisons. Pourquoi on n'entretient pas, en tout cas, la servitude de nos maisons? Pourquoi on n'entretient pas les collecteurs, les caniveaux qui passent devant nous pour dire, c'est vrai, si l'État ne vient pas, et c'est la première victime, c'est nous. Tant que chacun de nous puisse prendre des dispositions et pour prévenir, sinon ça doit arriver, mais des mesures de prévention sont les meilleures mesures pour cela.
D'accord. Quelle est l'urgence selon vous, M. Goudiane?
L'urgence, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme. Il l'a dit, il faut qu'on dise à tous ceux qui sont dans des situations de risque de prévenir en quittant eux-mêmes les situations de risque dès à présent. On a vu la pluie. Ceux qui sont dans des situations de risque se connaissent. Vraiment qu'ils prennent les dispositions de quitter eux-mêmes. L'État aussi, les collectivités, les chefs de quartier, qui se déplacent dans les cités, qu'ils voient ces situations de risque-là, et s'il faut prendre des mesures, comme on l'a dit, s'il faut déguerpir les gens, il faut le faire. Je crois que ces mesures-là, déjà, c'est assez important. Il faut utiliser les canaux de communication pour faire passer les messages en langue locale, en langue nationale, donner vraiment les bonnes informations aux populations, le rappeler s'il y a un problème là où il faut se recourir, la protection civile, vulgariser les numéros d'information, les numéros de secours. Vraiment, il y a beaucoup à faire.
Justement, quels sont ces numéros, les numéros de secours?
Bon, les numéros d'urgence, quand on prend la première chose, quand on prend le 80-00-12-01, c'est un numéro d'urgence, numéro vert. Donc, lorsqu'on a mal tel, même si on n'a pas de puce, on peut joindre à ces numéros. Même si on n'a pas la prévention, qu'on a la police ou la gendarmerie, au-delà de 80-00-12-01, qui est le numéro d'urgence de la police et de la protection civile, le 80-00-11, 15 pour la police et 80-011, 14 pour la gendarmerie. Et 80-011, 25 pour la garde nationale. Et tous ces numéros sont surveillés de très près et que tous ces services travaillent en tandem par rapport à la gestion des urgences. Donc c'est pour dire que chaque malin doit savoir à tout moment comment joindre les pompiers ou le moins les secours d'urgence à ce numéro.
D'accord. Et je rappelle ce numéro en bamanankan pour ceux qui ne comprennent pas français. Bichegui, fou, tan anifla, fou, anikelin, 80-00-12-01. Merci à nos invités, lieutenant-colonel Bakary Daou, directeur régional de la protection civile de Bamako, Ahmed Sekou Diallo, président de la plateforme nationale sur le climat. Et je rappelle que Mali Météo, qui devait se faire représenter, n'a pas pu nous rejoindre. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Nouhoum Djiré, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Gmondi.
Chenne Berry, Sikafoba. Le Grand Dialogue.